commencé à voir comment l'art est la cinquième dimension de la personne humaine. L'autonomie, c'est le point de vue de la substance, l'intelligence, l'amour, la prudence, sagesse interne, immanente, organisée, tout ce qui est en nous. Puis l'art, la domination sur le monde extérieur, et faire que le monde extérieur parle humain. C'est réservé à l'homme, ça. Le petit dieu de la nature doit apprendre à tout ce qui est autour de nous, ce qui est notre milieu, à devenir humain. On doit l'humaniser. L'humaniser en le rendant lumineux, l'intelligence. L'homme doit être par l'art un petit soleil lumineux. Il doit être celui qui transforme tout pour devenir une disposition à l'amour. Et alors, l'art religieux le fait d'une façon très spéciale. Il y a un art religieux. Avant de parler de l'art chrétien, il faut toujours parler de l'art religieux. Parce que l'art religieux, c'est justement la découverte qu'il y a dans l'homme, un foulcan. L'homme ne peut pas rester limité à lui. Et l'art doit capter ça. Et l'exprimer. Et l'art commence d'une façon très manuelle. Alors, nous avions déjà commencé à voir cela la dernière fois. Il y a quelques petites questions. Je les lis tout de suite. Qu'est-ce qui différencie l'autonomie de l'affectif ? Qu'est-ce qui différencie l'autonomie de l'affectif de l'autonomie de la recherche de vérité? Dans l'affectif, il n'y a pas d'autonomie. L'affectif cherche l'unité et l'union. Et c'est ce qui explique quand l'affectif n'est pas assez illuminé, il devient la confusion. Et à la place de respecter l'ami, on le mange. Les mamans italiennes qui disaient à leurs petits-enfants en italien que « je te mange ». Ça sort, ça. Parce qu'ils expriment ça très fort. « je te mange ». Et l'affectivité fait ça. Je te mange. Mais vous savez, quand vous êtes dans l'estomac du requin, vous êtes bien. L'autonomie a complètement disparu. Mais le requin a augmenté de dimension. Alors c'est la fusion. La fusion n'est pas l'amour. Parce que c'est le manque de respect de l'autre. Et l'affectif, poussé à bout, fait la fusion. La passion poussée à bout fait la fusion. C'est très curieux de voir comment des êtres humains passionnés, qui disent s'aimer follement, se mangent. Alors, tant qu'il y a quelque chose à manger, ça va. Mais très vite, il n'y a plus rien à manger. Et là, c'est des colères effrayantes. C'est très très important. C'est l'intelligence met dans l'amour une limite. Respecte l'autre. Le respect de l'autre dans l'amour d'amitié est quelque chose de capital. Alors que il y aurait une espèce de fusion. Donc, l'autonomie de l'affectif et l'autonomie de la recherche de la vérité, c'est là où on voit très bien la différence. Il n'y a pas d'autonomie du côté de l'affectif pur. Alors, on pourrait parler de l'autonomie de l'amitié, qui est l'autonomie à l'intérieur de l'amour, on respecte l'autre, et l'autonomie intellectuelle de la recherche de la vérité. C'est très vrai que ces deux autonomies sont très différentes. Je crois que c'est ça que ça veut dire. L'autonomie de l'intelligence de l'ami. L'ami est autonome par rapport à son ami qui le veut autonome. Et on souhaite à l'autre ce qu'on souhaite pour soi-même. Mais on le souhaite à l'autre, ce qu'on souhaite pour soi, en comprenant que ce qu'on souhaite pour soi n'est pas la même chose qu'on souhaite pour l'ami, parce qu'il est autre que moi, il n'est pas moi. Vous voyez, dans l'ami, dans l'amitié, dans l'amour passionnel qui veut à tout prix l'unité, on ne souhaite plus qu'à l'ami d'être possédé par nous-mêmes. On croit que le plus grand bonheur de l'ami, c'est d'être possédé l'estomac du requin. Quand vous êtes dans le requin, vous avez une noblesse énorme, c'est que vous êtes requin. Vous êtes devenu requin, mais à son service. C'est lui qui a augmenté. Et vous, vous êtes esclave. C'est très curieux, vous savez. Le requin, c'est un animal qui nous instruit beaucoup. J'en ai vu au Pirée, parce que de temps en temps, les requins avancent jusqu'au Pirée. Alors à ce moment-là, on indique interdit de se baigner. Il en avait fait ça l'année où j'étais, moi. Tout le monde était encore dans l'émotion. Alors j'ai eu les émotions durant. Il est arrivé des gens de l'extérieur, en défense de se baigner. Non, le requin, on les voit venir. Puis ils se sont baignés quand même. Alors on a vu cette histoire extraordinaire. C'est ce qu'on m'a raconté, je ne l'ai pas vu. Mais je l'ai entendu de gens qui l'avaient vu. Le requin, devant un homme qui se baignait, un coup avec sa queue, lançant en l'air le bonhomme, et puis lui en bas. Il le recevait dans la gueule ouverte. Et bref, c'était extraordinaire. Une bouchée. C'est l'autonomie dans le ventre du requin. Vous avez regardé l'art comme ce qui permet à la personne humaine de dominer. Alors, comprenons bien, dominer, de s'exprimer, plus exactement, de s'exprimer sur l'autre, sur la matière, avec le risque de se faire le rival de Dieu. Oui. Dans tout art, il y a comme analogie de similitude, comme une création. Dieu crée sur l'être, et l'artiste crée sur la relation. C'est toute la différence qu'il y a. Mais tous les deux créent. Créent, c'est-à-dire sont source première de cette relation et de l'être. On peut dire aussi, alors évidemment, cette analogie de similitude, elle risque quelquefois de retomber dans l'univocité. Et alors à ce moment-là, on s'érige comme le créateur, l'artiste créateur, et Dieu devient le rival. Il y a beaucoup de ça dans Nietzsche. Et c'est pour ça qu'il regarde justement que quand il est en face de l'océan, c'est difficile à faire. Alors on est obligé de s'incliner. On peut dire aussi que le grand artiste est celui qui cherche un absolu entrevu, un absolu qu'il a entrevu en lui imaginativement, qu'il n'arrive pas, qu'il n'arrive jamais à exprimer entièrement. L'art est ainsi une recherche de vérité. Bon, l'art est ainsi une recherche d'expression. C'est plus juste. L'artiste ne cherche pas tellement. Il cherche la vérité de l'art. Et c'est pas la même chose, la vérité de l'art et la vérité tout court. C'est pas la vérité métaphysique. La vérité métaphysique, on est relatif à ce qui est. Et l'artiste n'est pas relatif à ce qui est, il est relatif à ce qu'il porte en lui, son idéa, ce qu'il porte en lui, ce qu'il porte dans son intelligence d'artiste, dans son cœur d'artiste. L'art est ainsi une recherche de vérité qui œuvre. Qui ouvre l'homme à ce qui le dépasse. Dans une métaphysique de la personne, qu'est-ce qui est premier dans le regard sur l'art ? La capacité de dominer ou la découverte d'un absolu qui dépasse l'homme ? Oui, je vois bien, la question est très bien. Ce que nous faisons, c'est essayer donc, ayant découvert ce qu'est la personne humaine, nous essayons de découvrir tous les éléments qui sont présents dans la personne humaine. Dans la personne humaine, il y a l'autonomie, il y a la lumière, l'intelligence. Une personne doit toujours être lumineuse, elle l'est plus ou moins. Mais elle doit toujours être lumineuse. L'intelligence, la sagesse, elle doit être l'amour. La personne humaine captive, attire. Une vraie personne, ça vous attire toujours. À Fribourg, je voyais, quand je montais pour l'université, il y avait un père hollandais qui était très grand. Un père dominicain hollandais, très grand, comme une tour. Et il marchait très lentement. Et comme ça montait, il avait autour de lui, chaque fois qu'il montait, quelques petits bons hommes, 5-6, qui le regardait, et qui le regardait en tournant autour de lui. C'était très joli à voir. Oui, une tour ambulante, avec les petits bonshommes à côté. Et il faisait comme s'il ne les voyait pas. Son regard était bien au-dessus de ces petits qui le regardaient. Tandis que les gosses le regardaient dans une métaphysique. Alors, l'autonomie, la lumière, l'amour, la force d'attraction. Il faut aimer pour attirer l'amour. C'est très curieux, ça. La créature, parce que par l'amour, par la créature est trop limitée par elle-même d'être le bien. Mais elle est le bien quand elle atteint sa finalité. Alors elle est parfaite et elle attire. Et cette tour ambulante, au point de vue corporel, était impressionnante. Et attirait. Alors c'était pas l'amour, c'était le prestige. Et attirait les gosses qui regardaient. En admiration. La personne humaine implique ce regard sur nous-mêmes en comprenant nos qualités, nos défauts, nos qualités, nos limites, parce que celui qui est ambitieux d'une manière déraisonnable, à la place d'être une personne, devient un peu, je dirais, celui qui imite de l'extérieur la personne. Ça fait toujours comique. On a tous connu des personnes très majestueuses qui le savent, qui n'ont pas grand-chose à l'intérieur d'eux-mêmes, et tout est pour l'extérieur. Alors, ça fait, quand on les connaît, c'est comique. Je me souviens comme ça qu'il était quelqu'un, visiblement était ça. Or, il n'a pas vu la flaque d'eau qui était à ses pieds et qui était de la glace. Alors il s'est étalé majestueusement. Mais il n'y a rien de plus comique que la majesté purement extérieure qui tombe. C'est très curieux, ça, du reste. Au point de vue, il y a quelque chose qui... Vous voyez, il y a un contraste entre la majesté de quelqu'un et puis il dégringole. Normalement, la glace d'eau... La glace devrait fondre devant son regard. Mais la glace ne fond pas. Et le laisse se glisser. Et la glace est victorieuse à ce moment-là. Et le plus petit que soit, puisqu'il est au pied. Et vous pouvez trouver. Et ça, c'est comique. Et ça fait bien comprendre ce que c'est que cette dignité extérieure qui n'est pas la personne. On joue à la personne. On joue. C'est très bien, mais la vie n'est pas un jeu. Pour le théâtre, on peut le faire, mais pas autrement. Donc la prudence humaine nous fait tenir nous-mêmes toujours selon nos proportions internes et externes. La vraie prudence, ce n'est pas de tomber dans le ridicule ou être objet de ridicule. Et objet de ridicule quand l'extérieur ne correspond pas à l'intérieur. Il n'y a rien de plus ridicule que ça. Il y a une espèce de désharmonie qui fait qu'on sourit. Le sourire, c'est justement la grandeur du sourire, c'est de voir les proportions qui, tout d'un coup, ne sont plus de vraies proportions. Alors on sourit. Et on éclate de rire quand c'est grotesque. Quand la quantité s'y met. Alors quand il n'y a au contraire que la finesse, on sourit. Et on passe son chemin. songer à des quantités de paysages comme ça, de villes. Alors, l'art sera dans ce jeu des relations, où l'homme ne crée pas un être nouveau, mais il peut créer de nouvelles relations. Et le grand artiste, c'est celui qui crée de nouvelles relations, profondément. Le petit artiste, c'est des petites relations, c'est ce qu'on voit dans les affiches, n'est-ce pas ? Quelquefois, il y a de l'art qui s'exprime dans les affiches. Et c'est la relation nouvelle qu'on découvre entre telle chose, tel produit nouveau qui paraît et tel visage humain. Alors il y a des proportions nouvelles qui attire. L'art est la découverte de ses proportions. Et plus ses proportions sont profondes, plus l'art est grand. Et or, c'est au sujet de l'homme, plus que dans l'animal, que les proportions sont les plus fortes. Puisqu'il y a l'intelligence qui se manifeste à travers le regard, il y a l'amour qui suit le point de vue, l'intelligence, et tout le corps humain est plus ou moins habité par l'intelligence et l'amour. Il y a des corps qui ne sont pas habités du tout par l'intelligence et l'amour. C'est très curieux. On voit ça, on a l'impression que l'âme n'informe pas tout. Il y a des choses qui restent à côté. Et on les garde toujours comme des... puisque c'est naturel, le seul lien naturel. Bon. Et l'artiste comédien, par exemple, l'homme qui fait des caricatures, arrive à saisir ces choses-là. Tout le monde est saisi, mais l'artiste les met en valeur. Il isole ça de tout le reste pour que on le comprenne, on le voit. Alors, vous voyez, l'artiste est un merveilleux éducateur de ce point de vue-là. Il éduque une société. Il lui apprend de dépasser le point de vue commercial. Le commercial, il ne cherche qu'une seule relation avec son porte-monnaie, n'est-ce pas ? Il voit tout sous ce point de vue-là. Extraordinairement curieux. Et c'est vrai, il apprécie les choses, ça vaut tant. La valeur, c'est pas la valeur absolue, c'est la valeur commerciale. Et ça change. Ça change pour les pays, ça change. Et toute l'astuce, c'est de voir que quelque chose qui ne se vend plus à Paris se vend merveilleusement autre part. Alors vite, il faut s'arrêter juste à temps et puis transporter tout. C'est toujours un jeu de relation. L'habileté, ce que les Grecs appellent justement cette habileté. L'habileté de le virtuose, c'est celui qui joue avec la relation. Le boursier, c'est celui qui joue avec la relation, qui comprend tout cela d'une façon très spéciale. Parce que la seule chose que l'homme peut créer, c'est la relation. Au point de vue philosophique, vous savez que le seul prédicament, la seule détermination réelle qui peut être une relation de raison, c'est justement la relation. La relation est réelle dans l'amitié, dans une véritable amitié, la relation est réelle. La relation entre le père et l'enfant, elle est réelle. Elle se fonde sur la procréation. Elle est réelle, elle a un fondement réel. Mais l'homme est capable d'inventer des relations. La première relation de raison, c'est l'universel. C'est très très important. Parce que un grand art doit être universel. L'homme est capable de créer l'universel. L'universel n'existe pas dans la réalité. Il n'existe que dans l'esprit du mathématicien. Il n'existe que dans l'esprit de du philosophe, l'universel. Le genre animal, ça n'existe pas dans la réalité. C'est un fondement dans la réalité. Mais comme tel, c'est dans l'intelligence. Alors, l'homme est capable de créer des relations. Et quand il est un grand artiste, il est capable de saisir ce qui pourra évoquer, parce que le grand art évoque. Quand le petit art, qui est très commercial, lui, au contraire, souligne, répète, pour que tout le monde comprenne. Le grand art est évocateur. Jamais à souligner jusqu'au bout. Parce que quand il souligne jusqu'au bout, il devient ennuyeux. Il tombe dans l'univocité. Quelque chose de trop commun. Tandis que le grand art, ce sont des relations analogiques. Donc des relations analogiques dont nous ne voyons pas le terme, il l'évoque. C'est dans ce sens-là que l'art peut atteindre quelque chose qui va très loin. Il évoque l'infini. Il évoque des présences infinies, présence de Dieu, dans l'art religieux. Pourquoi l'art religieux si facilement est d'une époque et fatigue, parce qu'il est d'une époque qui continue l'époque sur l'époque suivante, sans voir que tout a changé. Et il continue toujours là. Ça, c'est l'art religieux. C'est extraordinaire. L'art religieux était vrai à un moment, pour très peu de temps, et puis il a continué. Ce qu'on dit, l'art de Saint-Sulpice. Mais, à un moment donné, ça faisait du bien aux gens. Ça continue, remarquez, parce que dans l'homme, puisque ça regarde le point de vue religieux humain, alors chez l'homme moyen, ça continue. C'est très curieux de voir ça. Vous voyez, c'est les questions de la mode pour les vêtements. La mode, c'est saisir au début d'une saison, ce qui va toucher les gens importants, ce qui va leur donner un petit chic, quelque chose de spécial pour les dépasser. Et quand la saison est passée, on voit que ça ne peut pas continuer. C'est un art éphémère. Le grand art touche des relations profondes. Vous voyez, la différence entre l'art égyptien et l'art grec. On voit ça merveilleusement au musée d'Athènes. Au musée d'Athènes, il y a de très belles choses sur sur l'art égyptien. Et puis, la salle suivante, l'art grec. L'art égyptien de la grande époque égyptienne, c'est un art hiératique. Ben, c'est immobilité. Ce qui tombe directement. L'art grec, c'est le mouvement. Et le mouvement dans la figure, c'est le sourire. Le sourire de l'enfant. Les Grecs ont été les premiers à découvrir le sourire de l'enfant. Les anges sont comme les enfants. Et le sourire de l'ange montre bien cette transposition. Il y a ce point de vue-là, c'est très net. La statue grecque, elle est très dans le vêtement, le mouvement du vêtement. Parce que quand il y a du vent et que vous avez un vêtement assez souple, le vent prend dedans, on voit très bien. Ils ont découvert ça. Ils ont découvert, vous voyez, la mobilité dans la nation. C'est très curieux. Et c'est très beau parce que ça fait comprendre ce que c'est que l'art dans le sens profond. Vous manifestez un jeu de relations qui exprime quelque chose. Exprime la souplesse du corps de l'homme, l'élégance du corps de l'homme, puisque c'est l'homme qui est la réalité la plus parfaite de notre univers, et c'est à l'égard de l'homme, vis-à-vis de sa relation, vis-à-vis du monde, qu'on verra le mieux ses relations. Saint François et le loup. C'est une relation. Qu'est-ce que vous voulez exprimer là? Vous voulez exprimer la douceur de Saint François à l'égard du monde inférieur, la souplesse de cet amour et la conquête de ce monde. Oui, c'est très riche comme manifestation. Ça nous touche, ça nous atteint dans un domaine secret. L'artiste dit tout ce que l'homme ordinaire ne dit pas. Et l'artiste dit tout ce que l'homme ordinaire ne dit pas, et le grand artiste touche quelque chose de tout à fait intérieur. Et au fond, qu'est-ce qu'il y a de plus intérieur? C'est la relation de l'âme avec Dieu. C'est la relation la plus profonde. Or, l'art liturgique, le véritable art liturgique, ce qui n'arrive pas toujours, le véritable art liturgique, c'est d'exprimer par les psaumes. Il y a un art liturgique dans les psaumes, merveilleux, tous les sentiments de l'homme à l'égard de Dieu. C'est toutes ces relations. L'art humain, c'est la relation de l'homme avec l'homme, la mère et son enfant. Le père et son fils. Vous voyez l'art grec dramatique. Ce sont les relations de l'homme avec les autres. La bonté humaine. La tragédie, c'est tout de suite la jalousie. Le drame de la jalousie qui brise. Et tout des arts, c'est la relation. Mais la relation affective. Et aussi la relation peut-être purement intellectuelle. Alors voyez, la question posée, c'est celle-ci. Qu'est-ce qui est premier dans le regard sur l'art ? La capacité de dominer ou la découverte d'un absolu qui dépasse l'homme ? Alors, je dirais, au point de vue de la grandeur absolue, c'est évidemment, c'est la découverte d'une nécessité. L'absolu se prend du côté d'une nécessité, du point de vue du gouvernement, oui, le destin, le tragique de l'art grec, c'est le destin. Ce destin qui vous poursuit, c'est la nécessité. Tout ce que vous faites, ça amènera cela. Il n'y a plus la liberté. La liberté de l'homme est obligée d'être cassée. Donc, au fond, ce qu'il y a de plus grand, de plus profond, c'est vraiment la découverte de l'homme pouvant atteindre l'absolu. Et c'est d'exprimer ça. C'est là où vous trouvez le plus grand tragique. Évidemment, on peut avoir des théories qui font que l'homme ne doit jamais regarder l'absolu. Donc, suppression de tout absolu dans la vie humaine, puisque l'absolu n'existe pas. Dieu n'existe pas. Alors, on veut supprimer ça. On aura l'art dans les pays athées, soviétiques. Et ça risque de gagner notre pauvre Europe. Il ne faut pas parler de Dieu. Donc, on défendra tout un religieux. On arrivera à ça. Par le fait même. Alors, on ne verra plus les relations de l'homme avec l'homme. Alors, la capacité de dominer, c'est la relation de l'homme avec l'homme. Ce qu'il y a de plus visible en vous, c'est de dominer sur un homme qui est plus grand que vous. Parce que dominer sur l'enfant, c'est du jeu. Dominer sur l'épouse, c'est un autre jeu. Tandis que dominer sur quelqu'un de plus grand, c'est la ruse. Et cette domination-là exige une virtuosité, une habileté. C'est le combat du petit David en face de Goliath. Le combat du petit David en face de Goliath est quelque chose d'étonnant. Parce que l'intelligence est mise en pleine lumière. La domination humaine écrase. Dominer en écrasant. Mais celle-là, elle est très rarement belle. Tandis que la domination de l'intelligence sur la grosse bête, c'est extraordinaire. Je me souviens, première visite que j'ai faite au Cameroun, je voulais aller voir les pygmées. Ça m'intéressait parce que les pygmées sont une race particulièrement fine. Et j'ai trouvé un petit pygmée. Il m'a raconté que dans sa vie, il avait tué 18 éléphants. Le petit bonhomme en face de l'éléphant. L'intelligence. Et alors, il me l'a dit, du reste, il me dit, c'est l'intelligence. Et c'était beau d'entendre ce petit pygmée dire, c'est l'intelligence. il fait dominer le petit pygmée sur l'éléphant. Mais tandis qu'au Pirée, j'étais la grosse bête qui avait avalé l'autre, parce que l'autre était imprudent. Mais il y a toujours dans l'art, il faut essayer de saisir ces choses que l'homme peut capter. Jusqu'au bout dans la relation de la colère. La colère saisit un homme dans tout son corps. Quand vous avez fait une grosse crise, une grande crise colérique, ça saisit tout. C'est l'orage. Donc un orage qui se purement de l'intérieur et qui vous prend tout. Et vous exprimez comment ces passions vous mettent dans des relations nouvelles. La colère vous met dans des relations nouvelles vis-à-vis des autres. Et ça peut aller très loin parce que la colère vous aveugle. Et alors vous avez une dialectique passionnel qui monte au développement de la passion avec les résistances, c'est toujours un jeu de relation, qui nous saisit, qui nous prend. Alors, toute relation a un fondement. Dans une relation de raison, c'est l'intelligence qui fait le fond et qui permet la relation. Dans l'art, dans le grand art, dans l'architecture, par exemple, c'est très visible. L'architecture qui est l'art des arts, architecton, c'est techné dans ce qu'elle a de supérieur. Et l'architecture était considérée à Athènes vraiment l'art des arts, parce que l'architecte devait tout prendre pour lui. Alors, dans l'architecture, c'est le jeu des relations. Et quand la vitre est apparue comme un élément très important pour l'architecture, on a vu des maisons entièrement des façades où la vitre était tout. Bon, alors au début, il y a une espèce d'admiration pour ça, un peu de folie, et on avait oublié que la vitre est sensible, évidemment, à la chaleur. Alors, avec les grosses chaleurs, tout a sauté. On n'avait pas prévu. L'architecte devait voir ça. Jusqu'où le cadre pouvait supporter la dilatation du verre. Et tout ça montre que l'architecte, qui est toujours avec la matière, notre art est toujours avec la matière. L'art des arts, c'est la logique. Ah. Alors aujourd'hui, c'est la logique mathématique. C'est pas la logique aristotélicienne qui est reposée sur le point de vue de l'intelligence. C'est la logique mathématique. La logique mathématique est une logique qui se fonde sur la quantité, mais la quantité sur l'être mathématique. Oui. Alors, vous avez la relation de la relation. Et c'est pour cela qu'elle peut aller à l'infini. On est devant un monde qui se construit doublement idéal. le fondement est idéal, mathématique. Et la relation fondée sur la quantité mathématique est idéale. Donc c'est un monde qui peut s'effondrer d'un seul coup. Parce que sa base réelle est très lointaine. Elle est dans l'intelligence. Et il ne faut jamais oublier que les mathématiques, c'est un art. Aristote l'a vu comme un art, et saint Thomas l'a vu comme un art. Et cet art, c'est l'habileté. C'est l'art de l'orateur. L'orateur trouve des merveilleuses relations logiques. Mais il ajoute à l'artiste peintre, l'artiste architecte, lui, les relations de la relation. Et en tant que rhéteur, il est un grand artiste. L'artiste de la parole. Et l'artiste de la parole, ce n'est pas tellement la profondeur que l'extension. C'est les relations qui vont de plus en plus loin. Mais au fond, là, on voit très bien qu'il y a deux espèces d'art. L'art qui plonge sur le fondement de la relation, la mise en lumière du fondement de la relation. Ça, c'est un art touche très profondément la réalité. Et puis, il y a un art qui s'isole de plus en plus de la réalité, qui au fond ne voit plus que le jeu des relations. L'art non figuratif, point de vue peinture, c'est très net, mais il n'y a pas qu'en peinture. Dans tous les arts, il y a l'art non figuratif. Vous voyez, même dans la mode, là, il y a l'art qui veut modeler le corps de l'homme sur l'art, et non pas le corps de l'homme qui est fondement du vêtement. Mais il faut toujours chercher, et là, ça fait partie de la critique, savoir quel est le fondement de cette relation. Alors quand vous avez la relation de la relation, vous êtes en face d'un art qui peut aller à l'infini. Il n'y a plus d'enracinement. Mais l'intelligence continue de jouer au point de vue logique. La logique mathématique, c'est ça. C'est cette possibilité d'aller le plus loin possible dans les relations, où le fondement est de plus en plus loin. Et parce que du côté de relations de raison, l'intelligence est maître. Elle est créatrice. L'homme préfère les mathématiques à Dieu. C'est le drame d'aujourd'hui. Alors, vous voyez, est-ce que ce genre d'art est encore un élément de la personne? Non. Il est l'élément séducteur qui veut rendre la personne infinie. Elle peut faire toutes les combinaisons possibles. Et elles sont... ces combinaisons sont loin d'un fondement réel.